Avoir raison avec Raymond Aron.
Suis-je à la recherche de mon personnage? Franchement, non, je ne crois pas. J'ai le sentiment que mon existence a été faite dans une large mesure par des circonstances qui me sont extérieures. Car mon ambition initiale, je ne crois pas l'avoir accomplie, elle était purement philosophique et purement scientifique.
Aujourd'hui, le spectateur engagé. J'aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. On ne sait plus trop qui a dit cette ânerie, mais elle demeure un témoignage de la nature du débat intellectuel en France à l'époque de la guerre froide et de mai 68. Aujourd'hui, nous dit-on, le libéralisme connaît dans notre pays un regain de faveur. L'occasion d'aller voir de plus près chez Aron en quoi consiste cette philosophie de la liberté dont il fut un courageux défenseur, ce qu'elle a à nous dire encore aujourd'hui et quel usage nous pouvons en faire. Cette série sera déclinée en 5 parties. Demain, nous parlerons de la manière dont Aron a réfléchi à la démocratie en opposition au totalitarisme. Mercredi, nous nous intéresserons à sa conception des relations internationales. Jeudi, Aron et la philosophie de l'histoire. Vendredi, nous conclurons ce cycle en tentant une évaluation de l'héritage. Qui sont les Aroniens d'aujourd'hui? Comment écrivent-ils les pages de l'histoire que nous sommes en train de vivre? En effet, comme l'écrit son biographe Nicolas Bavray, s'il y a des Aroniens, et même de plus en plus à travers le monde, il n'y a jamais eu d'aronisme. Aron, quoique philosophe de formation et de tempérament, n'a pas cherché à édifier un système global d'interprétation du réel. Aujourd'hui donc, nous planterons le décor en situant Raymond Aron dans son époque. Nous le ferons dans un premier temps en compagnie de sa propre fille, Dominique Schnapper, directrice d'études à l'École des hautes études, membre honoraire du Conseil constitutionnel, présidente en exercice du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, ainsi que de Nicolas Bavray, auteur d'une biographie de Raymond Aron. Dans un deuxième moment, nous entendrons Pierre Bourretz, Vincent Duclair et Jean-François Cirinelli. L'occasion d'évoquer la situation d'Aron face au judaïsme, son analyse de mai 68 et les rapports des deux petits copains, Sartre et Aron, de Normale Sup à Un bateau pour le Vietnam. L'homme de gauche typique refuse pour ainsi dire instinctivement l'hypothèse d'une contradiction entre le cours de l'histoire et les aspirations des hommes de bonne volonté. Aron, on le sait, ne croyait pas à cette adéquation nécessaire entre les faits et une certaine idée du bien. D'ailleurs, il ne croyait pas même à la possibilité d'un bien absolu, mais plutôt à celle d'un moins pire. Pas à la lutte entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Il écrit souvent « la solution la meilleure » ou si l'on préfère « la moins mauvaise ». Alors ce scepticisme pessimiste, Nicolas Bavrez, est-ce que ça fait de Raymond Aron un homme de droite?
Alors d'abord, Raymond Aron, à l'origine, est plutôt à gauche. Et par ailleurs, à plusieurs reprises dans sa vie, il a pris des positions qui n'étaient pas du tout celles de la droite. On peut penser à la tragédie algérienne, c'est un des premiers qui explique pourquoi l'Algérie doit devenir indépendante. Ensuite, il a été critique du gaullisme et considéré d'ailleurs comme une des principales figures qui s'y opposait d'un point de vue libéral. Et puis, en mai 68 également, il a eu des positions qui étaient en fait assez éloignées d'une partie de la droite. Et d'ailleurs, toute une partie de la droite était à la fois hostile au libéralisme et voire assez sensible à une partie des thèses venant du communisme ou séduite elle aussi en partie par le totalitarisme. Donc, il me semble que cette étiquette de droite ou de gauche appliquée à Raymond Aron, elle n'a pas grand sens. Ce qui reste, c'est je crois deux choses. Il a parlé des circonstances, mais ce qui est très important, c'est que ça n'est pas vrai que cette vie est entièrement déterminée par les circonstances. Elle est la rencontre des circonstances et de circonstances dramatique, les grandes guerres et les idéologies du XXe siècle, et d'un projet intellectuel qui est resté constant. C'est le projet qu'il avait indiqué en 1930 en se promenant alors qu'il était en Allemagne. Ce qu'il avait expliqué, il avait dit qu'il voulait consacrer sa vie à une réflexion sur le XXe siècle, à la lumière du marxisme, un essai d'éclairer tous les secteurs de la société moderne, l'économie, les relations sociales, les relations de classe, les régimes politiques. Et tout ça a bel et bien été fait. Alors ensuite, Les circonstances, évidemment, elles ont évolué. Il naît en 1905, donc il est adolescent au moment de la Grande Guerre. Pendant l'entre-deux-guerres, il a vu et il a compris la montée du nazisme. Il est ensuite parti à Londres. En 45, c'est vrai que contrairement à la quasi-totalité des intellectuels, lui a vu les dangers du stalinisme et il va être pratiquement l'un des seuls à défendre les couleurs de la démocratie pendant les années 50, avec Malraux, mais qui était dans une position très différente. Comme je l'ai rappelé, il va comprendre aussi la décolonisation. Et puis, il va même, avec la conférence de 1960 sur l'aube de l'histoire universelle, entrevoir la possibilité de la fin des idéologies et regarder un peu ce qui ne connaîtra pas de son vivant, mais ce qui est devenu aujourd'hui la mondialisation.
Aron explique aussi dans ses mémoires qu'à côté d'une gauche optimiste qui a foi dans le progrès, il existerait une autre gauche pessimiste, illustrée par Alain, qui plaide pour la résistance à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Dans sa jeunesse, Aron était disciple d'Alain, il s'en est éloigné que parce que Aron était pacifiste et que de plus en plus Aron ne l'était pas face à la montée de d'Hitler. Et il faut savoir qu'à Normalsup, il est encore socialiste, il est même membre de la SFIO, il vote d'ailleurs pour le Front Populaire. Donc on voit que l'origine politique d'Aron, c'est de gauche, c'est la gauche.
Oui, d'ailleurs, dans sa famille, il y avait beaucoup de gens qui votaient à gauche. Mais ce qui est important, là encore, c'est pas tellement d'être de droite ou de gauche, c'est de comprendre le monde tel qu'il est. Qu'on soit plutôt pacifiste en 1918, c'est quand même le bon sens quand on voit le carnage et la destruction de tout ce qui avait été la grandeur de l'Europe libérale. Rester pacifiste quand on a Hitler qui arrive au pouvoir, évidemment, c'est une toute autre chose et c'est une erreur majeure. Et de même, c'est aussi pour cette raison qu'il a décidé, avec d'ailleurs le conseil de sa femme, d'aller ensuite à Londres en 1940. Parce qu'à l'époque, évidemment, la priorité, c'est de se battre contre l'Allemagne nazie. Donc c'est ça qui me semble très important. C'est pas parce que la gauche et la droite, d'abord, on voit que certaines des idées évoluent entre un camp ou l'autre. Si on prend par exemple le nationalisme, il a changé ou le protectionnisme, ils peuvent changer de camp. Donc le propos d'Aron, c'est pas d'être de droite ou de gauche, c'est de comprendre l'histoire telle qu'elle est et d'essayer de la comprendre pour permettre aux hommes d'agir dessus. Et juste un dernier mot, vous avez expliqué qu'il était sceptique. Et ça, je ne crois pas du tout parce que il est philosophe, mais c'est aussi un des grands combattants de la liberté. Et on ne combat pas dans le vide. Donc, quand vous relisez les mémoires, il y a une phrase extrêmement forte où il explique que toute sa vie, il n'a jamais renoncé à l'idée qu'il existerait une raison, un peu au sens de Kant, qui permettrait de réconcilier l'humanité. Et on ne passe pas une vie aussi engagée, c'est un spectateur mais engagé, avec autant de prises de risques, avec autant de mouvements, si on ne croit pas à quelque chose. Et donc, Aron n'est pas du tout un sceptique, c'est un combattant de la liberté et quelqu'un qui a défendu la démocratie dans un siècle où, on l'oublie aujourd'hui parce que finalement ça s'est bien terminé, mais où il a été très proche d'être emporté, d'abord évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite la guerre froide n'était pas automatiquement perdue par l'Union soviétique, on l'oublie souvent aujourd'hui.
Dominique Schnapper, votre père Raymond Aron, donc connu une consécration tardive puisqu'elle est intervenue en réalité quelques années avant sa mort. D'un seul coup, les télévisions le réclament, ses mémoires se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires alors que c'est un livre assez ardu. Mais pendant une très grande partie de sa vie, entre 20 et 30 ans, il a subi une espèce d'isolement digne d'un paria de l'intelligentsia. Alors pourquoi, comment cela s'est-il traduit dans sa vie quotidienne? Est-ce qu'il en a souffert sur le plan personnel de cet isolement?
Je crois que certainement, il n'a pas choisi l'isolement. Et c'était plutôt un homme de relations pour lesquels l'amitié comptait beaucoup, pour lesquels d'être seul à mener un combat n'était certainement pas un idéal. Et je crois qu'il en a souffert. Il a souffert de la fin de ses amitiés des années 30, par exemple avec Sartre, mais c'est la plus connue. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, parce que après la Seconde Guerre mondiale, ce dont j'ai toujours un peu de peine à convaincre les jeunes générations, c'est que le débat politique n'était pas seulement un débat politique, c'était une condamnation morale, c'est-à-dire qu'il était bon de penser d'une certaine façon. Et donc on n'était pas dans l'ordre des débats politiques, mais de la condamnation morale. Et être moralement condamné par tous ceux avec lesquels on avait eu les amitiés de jeunesse, qui sont très précieuse dans une vie, c'était pas drôle pour le dire très simplement. Je crois qu'il en a souffert, mais comme l'a dit Nicolas, c'était un homme de conviction et d'engagement, et il n'a pas pour autant remis en question ses convictions et ses engagements.
Il était capable de souffrir pour la vérité.
Je crois, oui.
Je devinais peu à peu mes deux tâches. Comprendre ou connaître mon époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de mon savoir. Me détacher de l'actuel, sans pourtant me contenter du rôle de spectateur. Mémoire, page 84.
Alors, comprendre l'époque sans se contenter du rôle de spectateur, c'est toute l'ambiguïté du spectateur engagé. Aron n'a pas manqué de s'engager, on disait, il a rejoint la France libre à Londres dès le début de l'aventure, il a adhéré au RPF gaulliste après la guerre, il a bataillé au sein du Congrès pour la liberté de la culture, il a lutté contre le programme commun de gouvernement dans la presse, et pourtant, on a le sentiment que ce fut toujours en gardant une espèce de quant à soi. Parce que ce gaulliste réticent avait dénoncé la tentation bonapartiste très tôt, dès la revue La France libre qui dirige à Londres.
1943.
La droite le détestait parce qu'il avait écrit, vous le disiez Nicolas Bavré à l'instant, que la France devait quitter l'Algérie, il l'avait fait en 1957. Et quoique libéral, il jugeait, on le voit dans ses mémoires, avec une certaine sévérité, le président Giscard d'Estaing qu'il trouvait assez frivole. Alors pourquoi ces réticences face à des engagements qui sont par ailleurs assumés? Pourquoi ne peut-il pas s'engager tout entier comme le font à l'époque la plupart des intellectuels français, Nicolas Bavré?
Parce qu'on l'a, c'est ce qui a été dit. C'est Malraux qui disait que le grand intellectuel, c'est celui qui a le sens de la mesure et de la complexité. Aron a vécu dans une époque violente, dure, mais il a toujours refusé justement cette division binaire entre simplement le bien et le mal. Et c'est ce qui fait la force de sa pensée. Si on regarde, par exemple, concrètement, la manière dont il a analysé l'Union soviétique, en fait, ou les totalitarismes, les concepts ont changé parce que il a très bien vu qu'entre l'Union soviétique de Staline et celle ensuite de Khrouchtchev, il se passait des choses et que ça restait un régime totalitaire, mais ça n'était plus la même chose, et que de même l'attitude, la marge de manœuvre des démocraties face à ce régime évoluait et n'était plus la même. Donc Aron est un penseur de la complexité, et c'est ce qui lui a permis, à mon avis, de comprendre beaucoup mieux son époque que la plupart des... Et c'est vrai qu'il n'est pas là où on l'attend, mais il n'est pas là où on l'attend, y compris sur le plan intellectuel. Je rappelle, on l'oublie souvent, mais c'est lui qui a découvert les phénoménologues et qui a permis à Sartre, j'allais dire, de plonger dans l'œuvre de Husserl et Heidegger, ce qui lui a beaucoup servi. C'est lui qui a découvert la sociologie allemande dans les années 30. C'était pas évident d'expliquer que la sociologie allemande à un public français alors qu'on sortait de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a redécouvert Tocqueville, on l'oublie aujourd'hui. C'est lui qui a fait découvrir, qui a fait la pédagogie de la dissuasion nucléaire, qui était quand même, ou de la société industrielle auprès de l'opinion française. Donc on a bien ces deux éléments, et c'est sa dernière originalité, c'est qu'on a une vraie œuvre scientifique, et qui est une œuvre assez étonnante parce qu'elle aborde des dimensions du savoir extrêmement diverses. Et on a aussi ce rôle de professeur d'hygiène intellectuelle qui a été tenu non seulement à travers les éditoriaux, mais un certain nombre de livres très pédagogiques qui, par exemple, les livres de stratégie, ont commencé à présenter ce qu'étaient les raisonnements de la dissuasion nucléaire à une opinion française qui n'en avait aucune idée.
L'historien qui veut comprendre l'autre pour se mieux comprendre lui-même ou pour atteindre à une expérience plus riche de l'humanité est contemplatif. L'historien qui dégage des leçons du passé et les constances dans les affaires humaines est au service de l'action. Il est l'éducateur du prince avec le désir d'en être le conseiller. Dimension de la conscience historique, page 122.
Dominique Schnapper, contemplatif ou conseiller du prince, votre père avait l'étoffe d'un grand professeur. Sa vie peut jusqu'à la guerre, en tous les cas, passer pour cela, le prélude à une grande carrière universitaire. Et puis, il est reçu premier à l'agrégation. Et puis, après la guerre, il refuse immédiatement un poste de professeur qu'on lui offre à l'université de Bordeaux et puis se lance dans le journalisme. Il rentre à Combat, il rentre au Figaro. Alors, confident de Clio ou conseiller du prince, quel rôle ambitionnait réellement Raymond Aron ?
Je crois que c'est, en fait, c'était ni l'un ni l'autre. Je pense que son ambition était essentiellement intellectuelle. Alors c'est vrai, dans la première citation que vous avez faite, il a parlé des circonstances extérieures. Et c'est vrai qu'en 1939, il venait d'être nommé à l'Université de Toulouse, et s'il n'y avait pas eu les événements que nous savons, il aurait sans doute continué une carrière universitaire. Mais une fois qu'il a fait l'expérience directe de l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, je crois que son rapport à la réflexion est devenu assez différent, et il est revenu en France, aussitôt que ça a été possible, dès que la libération de Paris a été faite, il est revenu très tôt à Paris, et avec l'idée, l'ambition, l'espoir, je ne sais pas quel est le terme exact, de contribuer à la Renaissance française, et que l'idée d'aller, après les événements qu'il venait de vivre, d'aller simplement enseigner la philosophie à l'Université de Toulouse, lui a paru, je crois, dérisoire à la suite de cette expérience profonde qu'était la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais juste ajouter un mot sur le rapport droite-gauche. Il était de tradition dreyfusarde, disons. Son père et lui-même avaient été des dreyfusards. C'était ça, sa sensibilité. C'était une sensibilité de gauche, mais qui ne l'empêchait pas, comme l'a dit Nicolas, de reprendre à nouveau frais tous les problèmes sur lesquels la droite et la gauche s'opposaient, dans lesquels il n'avait pas nécessairement soit la position toujours de la gauche, soit celle de la droite. J'ajoute un dernier élément à ce qu'a donné, plus technique, à ce qu'a donné Nicolas, c'est la fiscalisation des allocations familiales, qui était à un moment donné a été un grand thème de gauche. Il était tout à fait favorable à la fiscalisation des allocations familiales. Donc, même dans le détail de la gestion, il pensait qu'on devait échapper à cette opposition et lui-même y a, je crois, échappé.
L'intellectuel sartrien de l'époque, hein, il est un peu disparu, n'est pas un expert, c'est quelqu'un qui se mêle, comme disait Sartre, de ce qui ne le regarde pas. Donc c'est quelque part un spécialiste de l'universel. Dans les rédactions où il a travaillé, Raymond Aron passait pour un professeur, qu'il finit par devenir, d'ailleurs en rentrant professeur de sociologie à la Sorbonne, puis à l'École des hautes études, et enfin, couronnement d'une carrière, au Collège de France. Mais les universitaires, comment appréciait-il ses livres d'intervention dans le débat public, tel que son fameux « Opium des intellectuels » qui se vendait à des dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas très courant dans le milieu universitaire, Nicolas Bavré?
Ben, il ne fait pas de doute que la publication de l'Opium des intellectuels a failli télescoper le retour de Raymond Aron à l'université, un retour qui s'est fait vraiment sur le fil avec une voix de majorité. Mais là encore, il faut regarder les choses. Aron est quelqu'un qui a fait trois thèses dans sa vie. Donc la première, c'est sa thèse sur la philosophie de l'histoire. Et ensuite, il y a Paix et guerre entre les nations et Clausewitz, qui sont l'équivalent d'une thèse. Donc Paix et guerre a correspondu à son retour à la Sorbonne, même si c'est de la sociologie, mais des relations internationales. Et Clausewitz, c'était au moment où il était au Collège de France. Donc quand on regarde la production universitaire ou scientifique de Raymond Aron, elle est assez prodigieuse. Et puis de l'autre côté, il y a des livres d'intervention. Donc c'est vrai que ça lui a permis de se mettre, j'allais dire, les deux mondes à dos, puisque c'est la fameuse formule, il était journaliste au Collège de France et par ailleurs
professeur au Figaro.
Derrière ça, ça veut simplement dire que le problème d'une double activité, c'est, j'allais dire, s'il y a incohérence ou divergence. Il se trouve que derrière à la fois des champs du savoir très différents et des formes entre l'enseignement, la publication d'essais ou de livres scientifiques et puis les éditoriaux, il se trouve que derrière, il y a une formidable cohérence de sa pensée. Et c'est ce qui lui a permis, peut-être sûrement pas d'avoir toujours raison, parce qu'aucun de nous ne peut le prétendre, mais de se tromper beaucoup moins que les autres. Et pour en revenir, même si c'est un peu schématique, quand vous regardez la méthode d'Aron, on retrouve des schémas similaires dans un éditorial ou dans des livres ou des chapitres. On établit d'abord les faits, et ça, c'est pas vraiment la méthode sartrienne. Ensuite, on analyse, on interprète et on juge. Mais on fait les choses dans cet ordre. Et notamment, on ne commence pas à juger sans avoir établi les faits.
Dominique Schnapper, est-ce que Raymond Aron a toujours eu raison ?
Non, bien sûr. Lui-même était le premier à pouvoir dire qu'il n'avait pas raison. En général, sur les résultats des élections, nous étions en désaccord quand nous faisions des prévisions. Et c'était plutôt nous qui gagnions que lui. Parce qu'il n'était pas du tout sceptique, comme l'a dit Nicolas. Il croyait au contraire à la raison humaine. Il croyait que l'apprentissage et l'étude permettaient d'être raisonnable. Il avait une foi condamné un jeune homme très brillant qui était passé à l'extrême droite en disant mais nous lui avons et pourtant nous lui avons fourni de fortes études. Et depuis, nous avions une certaine ironie à l'égard de sa conviction que les fortes études empêchaient les gens de délirer, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais il ne s'est pas trompé, ni sur le nazisme, ni sur le soviétisme, et c'est tout de même les deux grands problèmes qui ont marqué le XXe siècle, entre 1918 et 1989. Et comme il m'a dit une fois, où il avait présenté un peu une esquisse de ses mémoires. En sortant, il m'a dit, finalement, tu sais, c'est pas que je n'ai pas eu tort qui est intéressant, mais pourquoi les autres ont-ils eu tort ?
Alors, à l'époque où une grande partie de l'intelligentsia progressiste était subjuguée par l'Union soviétique, grandie par Stalingrad et la victoire finale contre l'Allemagne nazie, Raymond Aron a entamé effectivement un combat intellectuel contre le communisme qui finalement a été le combat principal de sa vie parce qu'il est mort, hélas, avant d'avoir assisté à la chute du mur de Berlin. À différentes périodes, il y a eu des vagues successives de déçus du communisme. On peut parler évidemment du discours du 20e congrès de Khrouchtchev en 53 dénonçant les crimes de Staline, de l'écrasement de l'insurrection de 56 de la Hongrie en 56, de 68 aussi, de l'enterrement du printemps de Prague par les chars soviétiques. Et puis, il y a l'affaire des boat people, les boat people du Vietnam. Et là, il y a cette fameuse réconciliation, enfin en tous les cas avec Glucksmann, présente ensemble à Giscard d'Estaing, Sartre et Aron sur le palais de l'Élysée. Comment a vécu Aron le fait de finalement d'être couronné comme celui qui avait vu juste depuis le début à la fin? Donc, quand on lit ses mémoires, on est espèce de lassitude, d'ironie. Il dit qu'il a été rattrapé par la mode, plus ou moins. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, je crois que sur l'opposition au communisme, il faut rappeler qu'il y a de temps en temps des livres qui font l'histoire et qui ne se contentent pas de la commenter. L'opium des intellectuels a été extrêmement important. Il faut aussi rappeler que Aron a été souvent mal compris dans son pays, mais que c'est un des rares intellectuels français de cette période qui a une vraie audience internationale. Et notamment que ses livres ont circulé sous forme de samizdat de l'autre côté du mur et ont eu un rôle extrêmement important dans le développement de la dissidence. Alors, l'épisode bateau sur le Vietnam, c'est finalement, si on veut le regarder avec un peu d'écart, normalement, Aron aurait dû se réconcilier avec l'intelligentsia de gauche dont il était issu dès la fin des années 60 ou le début des années 70 quand on commençait à voir pointer l'antitotalitarisme. Ensuite, il y a eu le choc de Solzhenitsyn et finalement, ça ne s'est pas fait à cause, pour le coup, des circonstances, c'est-à-dire mai 68, où Aron s'est retrouvé à défendre l'université, non pas du tout qu'il pensait qu'elle n'avait pas à être réformée, mais il était contre sa destruction. Et malheureusement, la suite des événements, là encore, lui a donné plutôt raison, puisque l'université française n'est toujours pas au niveau qui devrait être le sien aujourd'hui, en partie à cause des conséquences de ce mouvement, pour le coup, en partie nihiliste de mai 68. Donc finalement, cette réconciliation d'Aron avec cette intelligentsia de gauche, elle s'est faite effectivement avec pratiquement 10 ans de retard, à l'occasion du bateau sur le Vietnam. Et puis ensuite, il y a eu le couronnement ambigu du spectateur engagé et des mémoires qui ont précédé de peu sa disparition. Mais derrière, il faut bien voir que Aron, lui, d'ailleurs, a essayé d'aller vers Sartre, a proposé qu'il se revoie, et le fossé, l'image était effectivement très forte, et l'image disait beaucoup, de fait, sur cette génération où le combat idéologique a été quand même déterminant dans l'évolution de la situation géopolitique. Et ça disait beaucoup aussi de l'espèce d'exception idéologique de la France, mais sur les deux hommes, c'est vrai que c'est une histoire qui était finie depuis longtemps.
On reviendra sur Sartre et Aron dans la deuxième partie de cette émission, mais Dominique Schnapper, je trouve qu'il y a une espèce de lassitude désabusée de votre père quand il est interrogé sur le fait que, ben voilà, vous aviez eu raison sur l'Union soviétique, Solzhenitsyn nous dit aujourd'hui ce que vous nous disiez depuis 25 ans, il a l'air de prendre ça avec effectivement une espèce de désabusement, il triomphe très modestement en tous les cas.
Bah, c'était son style, il ne triomphe pas, c'était pas dans son style. Mais je ne crois pas du tout qu'il était désabusé, parce que je me souviens que quand Bernard-Henri Lévy et cette génération a découvert le totalitarisme et les camps soviétiques, je lui ai dit, mais enfin, il y a 25 ans que vous racontez tout ça. Et il m'a dit, bah oui, mais il faut que chaque génération exprime les choses dans son vocabulaire. Et il n'était pas du tout ni amer ni désabusé sur le fait que la génération suivante faisait sa gloire sur des choses que lui et les combattants du soviétisme de 1945 avaient proposé. Mais je crois que l'interprétation de Nicolas est vraie, 68 a empêché ces retrouvailles. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une autre raison, c'est que il est devenu bien reçu à Paris, qu'il était bon de s'être trompé pendant ces années-là, que c'était généreux de s'être trompé. Et par conséquent, tout le monde s'étant trompé, c'était bien de s'être trompé. Alors il y avait ce type un peu surprenant, qu'on ne pouvait pas éliminer complètement, mais qui lui ne s'était pas trompé, et qui par sa seule existence signifiait qu'après tout, on pouvait ne pas se tromper.
C'était un reproche vivant pour les autres.
Si vous voulez.
Merci Dominique Schnapper, merci Nicolas Bavray.
J'ai passé ma vie à critiquer et à contester. Mais ce que l'on a appelé contestation au mois de mai ou au mois de juin, et ce que l'on appelle aujourd'hui très souvent contestation, me paraît le contraire de la contestation telle que je la conçois. Parce que la contestation doit se fonder sur un minimum d'argumentation rationnelle et sur un minimum de conscience des objectifs. La contestation purement négative, je la comprends, c'est un état d'esprit, c'est une expérience, mais je ne crois pas que cela signifie grand-chose de contester l'enseignement universitaire sans se représenter un autre enseignement. Je ne crois pas que cela signifie grand-chose de contester l'ensemble de l'ordre occidental en disant en même temps qu'on ne veut pas de l'ordre soviétique et en rêvant de l'autogestion ou de la vie simple des communautés primitives.
Pour cette deuxième partie de la première des cinq émissions consacrées par France Culture à la pensée de Raymond Aron, nous accueillons trois invités. Pierre Bouretz, vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Duclerc, inspecteur général à l'éducation nationale et chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Cirinelli, vous êtes professeur à Sciences Po et vous êtes auteur notamment d'un livre intitulé « Sartre et Aron, deux intellectuels dans le siècle ».
Bonjour.
Merci d'être là. Commençons donc par ce parallélisme, Sartre et Aron, les deux petits camarades de Normale Sup, paradoxe. À l'origine, le plus engagé des deux n'est pas celui qu'on pense, puisque Aron adhère à la SFIO quand il est à Normale Sup, il vote pour le Front Populaire alors que Sartre ne vote pas. Aron est anti-munichois alors que Sartre est munichois. Et quand Aron vit en Allemagne, et il vit exactement au moment de la montée du nazisme et de la prise du pouvoir par Hitler, Aron comprend très très vite de quoi il retourne avec le national-socialisme, et Sartre n'a pas l'air de comprendre grand-chose, puisqu'il compare l'Allemagne nazie avec la France de Daladier. Alors, comment se fait-il que, ensuite, par la suite, Sartre soit passé pour le maître à penser de l'intelligentsia de gauche, alors qu'Aron, mon Dieu, glissait vers la droite.
Alors, il y a d'une part, naturellement, toujours les aléas des existences, c'est-à-dire qu'une existence n'est jamais tracée, sauf pour certaines philosophies de l'histoire ou certaines sociologies. Mais par-delà cette remarque liminaire, c'est vrai que ce chassé-croisé entre les deux hommes est assez étonnant pour l'historien, pour le politologue, pour l'historien des idées également. Pourquoi ? Parce que vous le disiez à l'instant, ça commence à contre-emploi en tout cas par rapport à la suite. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons un homme, Raymond Aron, qui va être l'un des penseurs libéraux du second XXe siècle, en tout cas en France, qui commence, vous l'avez dit, à gauche, qui commence au sein du socialisme français, qui fera même partie des étudiants socialistes à un moment donné. Et vous avez Sartre, qui sera le chantre de l'engagement, le théoricien de l'engagement, l'incarnation de l'engagement dans le second XXe siècle, qui au début ne s'intéresse pas à la politique. Donc de fait, il y a un chassé-croisé. Alors, ce chassé-croisé, c'est pas heureusement uniquement les aléas d'existence. Et nous retrouvons ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le fond les raisons de l'itinéraire d'un Raymond Aron et le choc de l'histoire à plusieurs reprises. Et à cet égard, on va y revenir, j'imagine, au fil de notre séquence, mais aussi bien les années 30, le début de sa réflexion sur ce qu'on pourra appeler le totalitarisme, que le choc de la Seconde Guerre mondiale a joué probablement de façon étonnante et détonnante sur son évolution ultérieure. Il y a véritablement une mue dans l'histoire et dans le parcours de Raymond Aron.
Qu'est-ce que Aron a compris du nazisme que Sartre n'avait pas vu, alors qu'ils se sont succédés dans le même poste en Allemagne à quelques mois de distance?
Tout à fait, vous avez raison. Alors là aussi, c'est passionnant pour l'historien, parce que c'est presque comme deux papiers chimiques qu'on met dans le même produit, mais qui ne réagissent pas de la même manière. Précisons pour nos auditeurs, Raymond Aron est de 1930 à 1933 en Allemagne. Il y est d'abord la première année à l'université de Cologne, puis de 31 à 33, il est à l'Institut français de Berlin. Donc il est en première ligne, il est aux premières loges, si j'ose dire, de ceux qui se
passent. Il assiste à l'autodafé des livres interdits.
Tout à fait. En tout cas, il assiste à la montée du nazisme. Il raconte dans ses mémoires ce qu'il en est. Et il sera là encore au début de l'année 33, au moment où se passe toute une série d'éléments où l'histoire bascule. Et pour revenir à votre question, Sartre, il sera en 33-34. Et 33-34, c'est encore plus essentiel, puisque dans un premier temps, Hitler n'est, si j'ose dire, que chancelier. Et 33-34, c'est le moment où il va devenir Reichsführer. L'un n'a rien vu. Il le dit de son propre aveu, l'un, c'est Sartre, puisqu'il dit dans un texte qu'il écrit sur la ligne Maginot alors qu'il est mobilisé en 39-40, il dit « J'eus une année de vacances à Berlin ». Et en revanche, effectivement, Aron éprouve le choc de l'histoire. Pour lui, c'est un moment changeant, un moment tournant.
Le ton qu'adopte Sartre dans Les communistes et la paix a de quoi consterner non ses adversaires, mais ses amis. Il accable ses critiques, réelles ou imaginaires, de grossières injures. Il décrit la France en des termes comparables à ceux qu'employaient durant la guerre les nazis de langue française. L'invective à la bouche et la haine au cœur, il se réclame d'un idéal humanitaire pour mépriser les hommes vivants et ne se sauve du nihilisme que par l'attachement à un prolétariat mythique et la foi en une révolution irréalisable. Polémique, Penser la liberté, page 448.
En forgeant le concept de religion séculière, écrit Aron, j'avouais implicitement que les adhésions d'intellectuels de haut niveau au marxisme ou au fascisme relèvent des sentiments plus que de la pensée rationnelle. Mais les croyants rationalisent leur foi, ils la présentent comme rationnelle scientifique. Aron, rationnel et sceptique, scientifique en tous les cas, versus Sartre, passionnel et engagé, est-ce qu'à votre avis, Vincent Duclerc, c'est la bonne entrée pour présenter la pensée de ces deux personnages, de ces deux intellectuels français prééminents?
En tout cas, Raymond Aron, rationnel et exerçant le pouvoir de la raison critique, me paraît effectivement tout à fait fondé. Et c'est vrai que cette période donc d'avant la Seconde Guerre mondiale est tout à fait cruciale, dans la mesure où, premièrement, il espère, notamment avec un historien philosophe qui a beaucoup influencé Raymond Aron, Elia Lévy, hein, il espère que les socialistes européens seront capables de d'œuvrer pour la démocratie. Et au fond, donc il y croit et il constate que non seulement ils sont incapables de faire ceci, mais que de plus il contribue sur des exemples, par exemple notamment bien sûr la, du côté de la Russie bolchévique, à l'avènement de l'ère des tyrannies. Donc de ce point de vue, il a une lecture extrêmement disons philosophique aussi de l'histoire, dans la mesure où il vise l'essentiel. L'essentiel, c'est au fond ce qu'il va mettre en œuvre en juin 1939, hein, c'est un texte essentiel, État démocratique, État totalitaire. Et en fait, c'est cette capacité de penser des réalités qui échappent, qui montre effectivement son pouvoir de raison. Et je pense que, au fond, comprendre le rapport de Raymond Aron et de la politique, c'est effectivement vraiment aller vers cette capacité de prendre du champ et de repérer l'essentiel dans, finalement, le mouvement du monde. Hein. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut effectivement rapprocher Raymond Aron d'un usage puissant de la raison critique. Pour Sartre, effectivement, et on peut s'appuyer sur, bien sûr, les lectures que Raymond Aron va produire sur la manière dont les intellectuels, dont l'ensemble d'intellectuels de gauche, vont abdiquer d'une raison critique pour aller vers les éléments qu'il va définir dans l'opium des intellectuels. Et c'est vrai que pour comprendre cette critique extrêmement vive de Raymond Aron sur les intellectuels, je pense que il faut effectivement se souvenir de ce travail qu'il a exercé donc avant la Seconde Guerre mondiale pour penser l'ère des tyrannies et pour comprendre aussi que la révolution n'est pas nécessairement porteuse de progrès, d'humanité, mais que c'est là aussi la révolution combinée au nationalisme qui fait émerger le totalitarisme.
Jean-François Sirinelli, Aron a écrit que la philosophie de Sartre, qui prône une subjectivité sans limite et une liberté totale, puisqu'elle va jusqu'à refuser son propre passé et recommencer chaque jour, à chaque minute, une nouvelle forme de liberté, que cette philosophie était en réalité incompatible profondément avec le marxisme-léninisme dont Sartre disait pendant longtemps qu'elle était la philosophie indépassable de notre temps. N'est-ce pas aussi qu'Aron connaissait l'œuvre de Marx bien mieux que Sartre?
Oui, probablement. Je dis probablement parce que je n'ai pas de compétences, d'expertise à faire valoir dans ce domaine. Mais il est évident pour qui a travaillé sur Raymond Aron, et c'est mon cas, que Raymond Aron a non seulement a lu Marx, mais a médité Marx et était à un moment donné un des meilleurs spécialistes en France de Marx. Et il est non moins évident que c'est vrai que Jean-Paul Sartre, au moins pendant une large partie de sa vie, n'était pas vraiment en contact d'affinité avec Marx, tout en devenant, j'allais dire à son corps défendant, mais la formule est impropre, à un moment donné le porteur et presque l'incarnateur d'intellectuels influencé par le marxisme. C'est d'ailleurs tout le sens de l'opium des intellectuels, ce texte auquel faisait allusion Vincent Duclerc de Raymond Aron en 1955.
Et puis dans Plaidoyer pour l'Europe décadente, il y a une analyse de la pensée marxiste qui est particulièrement brillante et je remarque que Aron, après la crise, la maladie qu'il a frappée, après son embolie de 1977, Aron se fixait le but d'écrire 3 livres possibles en tous les cas. Le premier, c'était une philosophie de l'histoire. Le deuxième, c'était les souvenirs qui donnent les mémoires actuellement publiées. Et puis le troisième, c'était un projet d'écrire une histoire de Marx et des marxistes. Et puis il dit finalement l'échec Kowakowski l'a écrit à ma place et puis il n'avait plus vraiment les moyens intellectuel de mener à but un tel ouvrage.
Un juif de culture française, citoyen français depuis plusieurs générations, n'est tenu par aucune loi humaine ou divine de se déterminer lui-même comme juif. Mémoire, page 665.
J'avais adopté une fois pour toutes, en 1933, une attitude qui me semble la seule convenable, ne jamais dissimuler mon appartenance, sans ostentation, sans humilité, sans surcompensation de fierté. Le judaïsme, ce n'est ni un titre de fierté, ni un motif de honte. En même temps, c'est pourtant Pierre Bourets, en tant que juif, Caron fait ses preuves de prudence excessive, puisque il ne signe, on lui a beaucoup reproché, il ne signe aucun article dénonçant les persécutions contre les juifs du régime de Vichy, alors qu'il est le responsable de la revue de la France libre. Et il dit lui-même, en tant que juif, c'était délicat. Alors, quelle est exactement la situation d'Aron, appartenant à une famille assimilée de longue date, au judaïsme?
Très compliqué. Très, très compliqué. D'abord, je crois, pour reprendre le titre puisqu'on était chez Sartre, de Simone de Beauvoir, c'est tout sauf le contraire d'une morale de l'ambiguïté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas dissimulé la complexité de son rapport au judaïsme, en dépit des choses très simples qu'il admettait et qu'il décrivait lui-même, c'est-à-dire le fait qu'il se présentait lui-même comme un symptôme. Symptôme de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'appartenance à la, disons, troisième génération de juifs citoyens français parfaitement assimilés et qui avaient en gros oublié l'essentiel, sinon tout, de la culture juive et n'avaient aucun sentiment d'appartenir, entre guillemets, à un peuple juif. Et en même temps, lui, bien sûr, a été rattrapé, deuxième symptôme, comme beaucoup de juifs français, ou comme beaucoup de français juifs, par 1967, par la guerre des six jours. Bien. Je ne cherche pas à me défiler à la question que vous posiez, c'est-à-dire, on lui a reproché, effectivement, de ne pas être intervenu publiquement, alors qu'il avait tous les moyens de le faire pendant la guerre elle-même, sur la question. Là encore, il ne maintient pas d'ambiguïté, il s'en explique dans ses mémoires. D'un côté, il ne savait pas grand-chose, et au fond, il s'en explique un petit peu mieux, en fait, dans les entretiens avec Volton et Missika. Il dit, on ne savait pas tout en pouvant quand même imaginer, mais il était inimaginable de savoir ce qui se passait. Et là où il est d'une très très grande honnêteté, je crois que cette fois c'est dans ses mémoires, c'est qu'il dit, j'ai vécu ce sentiment que ce n'était pas convenable d'en parler. Que ce n'était pas convenable d'en parler et que d'autre part, c'était imprudent d'en parler parce que régnait autour de moi, et ça c'est vrai, aussi bien dans l'entourage de De Gaulle, mais même à une autre échelle, l'idée qu'il ne fallait surtout pas que la guerre contre Hitler apparaisse comme une guerre des Juifs. Voilà. Donc ça, il s'en explique. C'est pour ça que je dis qu'il n'a jamais essayé, au fond, de se défausser de ces deux choses. Être un symptôme d'un certain rapport ou non-rapport d'un certain nombre de Juifs français depuis au moins deux générations au judaïsme. Et d'autre part, alors plus précisément, dans le moment où il était vraiment engagé dans la vraie politique. Et non seulement la vraie politique, mais pas la politique au jour le jour dans une démocratie, la politique à l'échelle mondiale. D'avoir subi cette chose qu'il analyse très bien a posteriori, qui est le sentiment d'être enfermé dans une sorte de dilemme.
Pierre Bourès, je vais vous citer une phrase prononcée par De Gaulle qui a fait bondir Raymond Aron. Vous allez me dire pourquoi. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, un peuple d'élite, sûr de soi et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain, à Jérusalem. Alors pourquoi Aron a-t-il bondi ?
Ben écoutez, je vais vous répondre en lisant la page de ce livre qui s'intitule donc « De Gaulle, Israël et les Juifs », paru quelques mois après la conférence de presse dont vous venez de citer un extrait. Voilà ce que je lis dans la page qui est à côté de celle où il cite très exactement le passage de la conférence de presse que vous venez de lire. « Un homme d'État s'abaisse lui-même lorsqu'il recourt à un pareil procédé, celui des stéréotypes nationaux, des préjugés raciaux, celui dont les habitués du café du commerce ne se lassent pas et dont psychologues et psychiatres analysent inlassablement les mécanismes. » C'est un livre, c'est un texte en réalité, c'est un texte assez court qu'il avait intitulé, si je me souviens bien, « Le temps du soupçon », qu'il écrit quelques semaines après la conférence de presse dans le Figaro, et il entoure ce texte de plusieurs textes pour en faire un petit volume qui paraît chez Plomb quelques mois plus tard avec une mention Tribune Libre qui s'appelle donc De Gaulle, Israël et les Juifs. Il prend la peine d'entourer un peu ce texte de ce qu'il appelle pendant la crise, donc une douzaine d'articles qu'il a écrits à la semaine pendant la guerre des six jours, comme en exerçant son métier de grand théoricien des relations internationales, d'analyste géopolitique, et puis de deux textes antérieurs des années 60 dans lesquels il parlait du judaïsme et un peu de son judaïsme à lui, qu'on pourrait, je crois, peut-être résumer en disant ni assimilation, ni double allégeance. Je crois que ce qui l'effrayait beaucoup, c'était la double allégeance. C'était le fait que ce n'était pas qu'il ne voulait pas qu'on lui reprochât. Il pensait qu'il ne fallait pas que les Juifs français, ou les Juifs en général, ne pouvaient pas avoir une double allégeance, d'un côté à la France en l'occurrence, et de l'autre à l'État d'Israël. Il leur fallait choisir, et puis d'un autre côté, il n'acceptait pas l'assimilation au sens fort du terme. Il revendiquait le droit de pouvoir conserver, y compris pour n'en en gros rien savoir, l'attachement à une culture, la culture juive. Ça me rappelle presque une plaisanterie juive classique. Je veux qu'il y ait une synagogue dans mon quartier pour ne surtout ne pas y aller. Mais en tout cas, ça c'est une prise de position très forte et qui aujourd'hui a encore des résonances très très fortes dans notre quotidien. Il refusait l'assimilation, il refusait qu'on impose aux juifs en l'occurrence d'être complètement assimilés, mais il avait un attachement à la citoyenneté française. Il allait même jusqu'à dire souvent qu'il se sentait plus proche d'un chrétien que d'un juif. Il a même quelques formules que des juifs qui ne partageaient pas exactement sa même position, disons, dans l'histoire et dans la période dans laquelle il vivait. Et il a même parfois des formules un peu plus dures là-dessus.
Ambigu.
Un peu plus ambigu, si on veut.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Vincent Duclerc, le fait que dans la pensée d'Aron, il y a une espèce de déchirement, il le dit parfois dans ses mémoires, entre une aspiration à l'universel et puis l'inscription dans un peuple particulier qui est d'ailleurs dans son cas est le peuple français. C'est un patriote, hein, Aron, une famille patriotique. Et quand il dit que le patriotisme chez lui, c'est sérieux, parce que quand il est à Londres, il veut s'engager dans un régiment de chars. On lui refuse parce qu'un Normanien agrégé de philo serait mieux à faire de la comptabilité dans un premier temps et puis surtout dans un deuxième temps diriger la revue de la France Libre. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette cet déchirement intérieur d'Aron entre une aspiration kantienne, il est de formation kantienne, vers une forme d'universel, et puis cette inscription dans un peuple particulier, dans une histoire particulière, qui fera d'ailleurs l'objet de l'émission que nous enregistrerons sur la philosophie de l'histoire d'Aron.
Je pense qu'en fait, il va surmonter assez habilement en fait, cette apparente contradiction. Et là, je m'appuie quand même sur un texte très éclairant de Jean-Claude Casanova, dans le volume d'hommage à Raymond Aron en 1985, publié par la revue Commentaire. Et Jean-Claude Casanova explique très justement que le patriotisme d'Aron, c'est l'amour de la patrie et des lois. Et dans l'amour des lois, et Casanova rappelle l'attachement profond de Raymond Aron au fond, à la philosophie classique des libertés, hein, notamment Montesquieu, et ben dans l'amour des lois, Raymond Aron retrouve l'universel. Et de ce point de vue-là, je crois que, au fond, ce qui donne la force de l'action intellectuelle, la critique intellectuelle de Raymond Aron, c'est au fond la cohérence aussi de sa vision du monde et de sa position philosophique, ce qui lui permet aussi d'avoir des réactions extrêmement vives. Je pense que ce qui a été lu là par Pierre Bourette de la réaction donc de Raymond Aron, de l'analyse de Raymond Aron sur la Déclaration générale de Gaulle, je pense qu'on peut faire deux analyses, hein. D'abord la manière dont il décrypte très précisément l'action de l'homme politique, hein, et Jean-Claude Casanova dans le même article soulignait combien Raymond Aron était intéressé par l'homme politique, mais en considérant aussi combien le travail de l'homme politique était compliqué et que le travail de l'intellectuel est moins compliqué. Donc une analyse extrêmement, donc en termes de science politique, hein, d'une déclaration du général de Gaulle. Et puis Raymond Aron est effectivement extrêmement préoccupé par l'invasion des passions et des émotions dans la vie politique. Parce qu'il a vu aussi ce que donnaient ses passions politiques avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je pense que toute son action en tant qu'intellectuel, c'est de restaurer de la raison dans la vie politique des démocraties. D'où effectivement ces prises de position extrêmement dures, notamment à propos de mai 68, hein, où par exemple il va s'étonner, mais avec une grande cruauté d'une certaine manière, hein. C'est pas cruauté parce que c'est pas le terme qu'il faut employer, mais une grande vivacité de l'aveuglement de penseurs extrêmement proches de lui, comme Claude Lefort par exemple, hein. Donc voilà, le finalement ce qui doit aussi donner à Raymond Aron une grande forme de solitude, parce que cette position de rappel de la raison nécessaire à la vie des démocraties, eh bien, l'amène fondamentalement à être seul. Mais il est armé, effectivement, je crois, dans ce combat pour la raison politique.
Vincent Duclair nous disait à l'instant, Jean-François Firinelli, à quel point Aron était isolé en mai 68, parce qu'effectivement, il avait organisé même, non seulement il jugeait très sévèrement les événements, mais il avait organisé une espèce de résistance des professeurs, on pourrait dire des mandarins, chez lui et dans son quartier général du Centre européen de sociologie. Sartre écrit en mai 68 qu'Aron est le mandarin par excellence et qu'il faudrait que ses étudiants le voient tout nu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette incroyable prise de position de Sartre envers son petit copain de Normalsup?
Oui, son ancien petit camarade, puisque l'un et l'autre se surnommaient ainsi mutuellement pendant leurs années de Normalsup. Alors, partons, si vous voulez, effectivement, de l'émotion, puisqu'on a dit que c'est quelqu'un qui essayait de faire la part entre la raison et les émotions. Là, il a été blessé. Il a été blessé, on le sait, puisque dans ses mémoires, c'est un des rares passages où, si vous me permettez l'expression, il se lâche. C'est-à-dire qu'il fait part de son émotion et de son incompréhension. Il a eu le sentiment qu'au bout déjà de 25 ans de luttes idéologiques, là, il y avait de la part de son petit camarade une traîtrise, si vous voulez. N'oublions pas que la phrase est un peu plus complexe quand même, et c'est à mettre cette fois-ci au crédit de Jean-Paul Sartre. Il parle d'Aron nu parce qu'il vient de dire dans le même article, les Français ont vu le général de Gaulle nu. C'est-à-dire que là, il y avait quand même une image, l'idée que le roi est nu, en quelque sorte. Mais ensuite, il continue sur son petit camarade, et ce qui a blessé, c'est moins l'expression, qui est idiote au bout du compte, si vous me permettez l'expression, même si l'historien théoriquement n'a pas à parler ainsi. Non, ce qui l'a blessé, c'est d'être traité de mandarin. Et surtout, dans le même article, il dit Raymond Aron qui se répète chaque année dans ses cours. Or, chacun d'entre nous sait que les cours de Raymond Aron, depuis qu'il avait été élu au milieu des années 50 en Sorbonne, étaient chaque fois à ce point de nouveaux cours qu'il donnait lieu à naissance, plus exactement, à de nouveaux livres. Je reviens en 68 pour finir. Donc, il y a cette sorte, si vous voulez, de trahison ou ressenti comme tel de la part de Sartre, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'une part que c'était un homme attaché à l'université, même s'il y vient tardivement. En 55, il a 50 ans. Donc, c'est un quinquagénaire qu'il revient à l'université où il avait été élu en 39, mais les malheurs du temps ont fait que pendant une vingtaine d'années, il a choisi autre chose. Il y a cette université, il y a aussi, tout à l'heure, l'un d'entre nous le disait, l'idée qu'il n'aime pas voir cet État-nation France qu'il aime tant en proie à des passions presque délétères, c'est-à-dire une France, de son point de vue, qui perd la tête. Et enfin, dernière chose, des intellectuels qui, de son point de vue, perdre la tête. Là, il n'est pas surpris, puisque 10 ans plus tôt, il a parlé de l'opium des intellectuels. Mais en même temps, il y a à la fois cette sorte de preuve par l'absurde, et il y a l'absurde. Et ça, ça le trouble beaucoup.
Pierre Bouretz, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Raymond Aron en mai 68? On peut penser, dans une certaine mesure, que tout le monde perd la tête et raconte n'importe quoi et que lui garde la tête froide, mais on peut aussi penser qu'il est passé à côté de quelque chose. Il y a effectivement, les suites de 68 l'ont montré, une révolution culturelle. Apparemment, il n'en a pas saisi le contenu.
Oui, ça, je crois qu'on peut pas dire le contraire. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer comment il l'aurait auto-analysé de la même manière. J'y pense par rapport à la manière dont il a auto-analysé son rapport au judaïsme ou son en un certain sens non-rapport au judaïsme. Alors, est-ce que ce sont par des tropismes sociologiques? Au fond, ça existe et il était le premier à le savoir. Il était dans une position qu'on peut ne pas appeler de mandarin, mais il était dans une position de quelqu'un qui était dans l'institution universitaire, qui avait du pouvoir dans l'institution. Il était quelqu'un qui n'était plus tout à fait tout jeune et peut-être pas disponible pour des enthousiasmes. Il était quelqu'un, comme Jean-François Sirinelli vient de le dire, qui craignait beaucoup les flammes, le fait que l'irrationnel. Par exemple, là encore, pour revenir sur la question sur laquelle j'intervenais tout à l'heure, par exemple, en 67, il est très choqué en même temps qu'il est réveillé dans sa conscience juive par la guerre des six jours, il est très choqué par le fait de voir des gens défiler sur les Champs-Élysées en brandissant des drapeaux israéliens. Voilà, il le raconte dans ses mémoires, il le raconte dans les entretiens avec Volton et Missika. Donc là aussi, il y a un peu ça. Là aussi, il est à la fois d'un investissement affectif qu'on lui connaît très peu, enfin aussi bien dans ses mémoires que dans les dialogues, le spectateur engagé, et puis de ce qu'on sait de lui, il avoue un rapport très émotif, une réaction très émotive à ce qui se passe en disant maintenant je sais que s'il arrivait quelque chose à l'État d'Israël, ce serait une blessure pour moi définitive.
Tout le reste de ma vie. Ouais,
c'est voilà. Ça. Et en même temps, il ne cache pas non plus qu'il est choqué par le fait que ça provoque une sorte d'enthousiasme qu'il considère comme non contrôlé et qui, il est obligé aussi de prendre en compte dans son analyse pour justifier à sa manière aussi son choix du non-sionisme ou son désintérêt au fond pour le sionisme, son histoire.
Il est d'une sévérité extrême envers l'État d'Israël, il faut reconnaître.
Il est d'une très grande sévérité. Alors, il est d'une sévérité qui parfois est une sévérité géopolitique. C'est troublant, il a un rapport extrêmement distant. Dans ses mémoires, il dit quand même « Je regrette a posteriori d'être resté aussi indifférent en 48 à la création de l'État d'Israël. » Mais il y a eu 67 et il y a eu 73. Et en même temps aussi, il est très critique d'un point de vue géopolitique. Bon, il fait son métier d'analyste géopolitique. Quand il pense qu'Israël fait des erreurs politiques, il le dit. Mais oui, il y a malgré tout quelque chose de singulier, disons, dans son rapport à l'État d'Israël et à l'expérience de l'État d'Israël. Il a un attachement, même s'il n'utilise, je crois jamais le terme, mais il a un attachement farouche à la diaspora, à l'existence diasporique.
Jean-François Sirinelli, pour revenir à mai 68, on le disait, mai 68, il passe à côté. En tous les cas, il est même carrément de ceux qui essaient d'organiser une résistance intellectuelle à la déliquescence de l'université qui se manifeste à ce moment-là. Et bizarrement, il sera rejoint par un certain nombre de 68ards et non des moindres, André Glucksmann, un des dirigeants de la gauche prolétarienne, devient le disciple préféré de Raymond Aron à la suite de ce qu'on a appelé l'effet Solzhenitsyn. Comment vous voyez cette étrange réconciliation entre quelqu'un qui venait de beaucoup plus loin et puis cette jeune génération qui, au nom des droits de l'homme, est une certaine mode, il faut bien le dire, d'un seul coup, redécouvre Aron et en fait, comme son maître à penser. Après tout, comme le disent Jean-Louis Misica et Dominique Volton dans la préface au Spectateur engagé, qui est un recueil d'entretiens avec Raymond Aron, pour eux, c'était le diable pour leur génération, Raymond Aron. C'était le principe, le pôle négatif, disent-ils. Le pôle négatif. D'un seul coup, ce pôle négatif est valorisé. Comment? Pourquoi?
Je vais vous répondre, mais avant, je reviens une seconde sur mai 68, parce qu'il y a une manière d'aporie, vous avez raison, et mes collègues ont raison, dans la pensée de Raymond Aron à ce propos. Je m'explique. Le problème n'est pas de savoir s'il a aimé ou pas aimé mai 68. Le problème n'est pas de savoir s'il a été dur, trop dur ou pas assez dur. Le problème, c'est qu'il est passé, du coup, et c'est pour ça que je parle d'une aporie, à côté d'une partie de la grande mutation française. Il faut bien voir que la France des années 60 et 70, dont il est le contemporain, puisqu'il ne meurt qu'en 83, c'est une France qui connaît un basculement anthropologique. Or, en tant que sociologue, il arrive à analyser le basculement proprement sociologique, le changement de la stratification sociale au sein de la société française, mais la mutation qu'on va appeler culturelle, il ne la voit pas, il ne la sent pas, ou peut-être par honnêteté intellectuelle, il n'a pas les instruments pour l'interpréter. En tout cas, mais je crois que Pierre Bourrette souhaite intervenir.
Non, moi, je voulais répondre à la question Glucksmann, justement. Ça, je crois que c'est une chose qui nous faut encore méditer. Je crois qu'il n'est pas aussi paradoxal que cela, que quelqu'un comme Glucksmann ait retrouvé Raymond Aron au moment d'un bateau pour le Vietnam, et au moment où, effectivement, une partie de cette extrême gauche, et plutôt la plus extrême, a rejoint quelqu'un qui était un conservateur, clairement. Bon, sur cette question-là. C'est-à-dire sur les droits de l'homme. Et j'ai d'autant plus envie de le dire aujourd'hui la mode est de dénoncer les droits de l'homme en les appelant droits de l'hommisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon peut-être encore de méditer cette rencontre entre quelqu'un qui avait été très engagé dans le gauchisme et quelqu'un qui était très clairement un conservateur ou un libéral conservateur. Il y a là, dans cette rencontre autour des droits de l'homme, à ce moment-là, quelque chose qui peut encore nous interpeller aujourd'hui.
Avec un événement clé, si je puis compléter ce que disait Pierre Bourrette, qui est entre-temps la fonte du marxisme au sein même de cette gauche. N'oublions pas que le Glucksmann de 75, c'est la cuisinière et le mangeur d'hommes, alors que celui de 73, c'était encore la gauche prolétarienne. Donc vous voyez, le problème, c'est que...
Il faut liquider pierre à pierre l'université bourgeoise. Je l'ai entendu André Glucksmann le dire à la fac de Vincennes.
Mais donc vous voyez que entre-temps, il y a ce rapport au marxisme d'une partie de ces jeunes gens d'extrême-gauche qui a changé. Et donc comme le disait Pierre Bourrette, ensuite la connexion est possible sur la seconde partie des années 70 à propos du combat antitotalitaire. Ça va être le grand moment et la connexion et ces photos, cette photo célèbre sur le perron de l'Élysée avec Jean-Paul Sartre, Raymond Aron et André Glucksmann, qui est un peu le go-between.
Vincent Duclerc, est-ce que cette réconciliation finale vous paraît convaincante ou est-ce que c'est une affaire de circonstances?
En tout cas, ça montre que l'analyse de Raymond Aron, notamment sur mai 68, était légitime et fondée. Au fond, ce que Raymond Aron redoutait particulièrement dans mai 68, c'est à la fois la décomposition de la société, il le dit très clairement dans le livre sur sur cette question de la révolution introuvable, et puis la manière dont les intellects de gauche, en fait, tentent d'accélérer cette décomposition. Et pour lui, une société en décomposition, c'est une société qui va balayer les droits de l'homme, la justice sociale, et donc qui va aussi risquer de placer un pays en déclin, en division. Et au fond, il a fait un choix. Il a préféré défendre des institutions qui permettaient néanmoins, justement, ces droits de l'homme, cette représentation, plutôt que de voir donc un risque de révolution incontrôlée. Alors peut-être que il a exagéré cette décomposition de la société, hein. Mais néanmoins, les choix qu'il a fait en matière de défense des institutions étaient fondés sur une analyse, et cette analyse, je crois, c'est celle qui va amener justement cette réconciliation avec des intellectuels de gauche qui ont compris au fond l'importance de ces droits de l'homme.
C'était Avoir raison avec Raymond Aron, une série de Brice Couturier avec aujourd'hui Dominique Schnapper, Nicolas Bavret, Pierre Bourrette, Vincent Duclerc, Jean-François Sirinelli. Lecture Christophe Brault, prise de son Jean-Benoît Tétu, Pascal Bénard, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Demain, démocratie, totalitarisme, avec Raymond Aron.